Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 0AD Empires Ascendant, l'histoire et vie d'un jeu vidéo libre. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, défendons le chiffrement et faire évoluer la mentalité des décideurs en France et en Europe. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 20 juin, c'est presque l'été, et nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry est accompagné aujourd'hui de deux nouvelles recrues en formation, Mélène et Mag. Salut, merci à vous trois.
Bonjour à tous.
Et bon courage avec la chaleur qui va se développer au sein de ce studio fermé.
La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G.
Salut Tiens.
Je crois qu'aujourd'hui tu veux défendre le chiffrement.
Exactement, oui. Et donc salut à toi, public de Libre à vous. Donc quand je prononce le mot, hein, chiffrement, ça divise les gens qui m'écoutent en deux catégories. La première catégorie, les gens qui savent ce qu'est le chiffrement. Deuxième catégorie, les gens qui ignorent ce qu'est le chiffrement, mais qui, par une sorte d'instinct étymologique, se disent que ça doit bien avoir quelque chose à faire avec les chiffres. Alors si tu fais partie de cette deuxième catégorie, sache que ce que j'appelle moi chiffrement est probablement ce que toi tu appelles cryptage. Alors quand je prononce le mot cryptage, ça divise les gens qui m'écoutent en deux catégories. Première catégorie, les gens qui comprennent. Deuxième catégorie, les gens qui comprennent aussi, mais qui savent que le terme correct est chiffrement, et qui vont donc venir s'empresser de corriger. Ces deux catégories étant quasiment les opposés exacts des deux catégories précédentes, tu l'auras bien compris. Bon, pour la défense des gens qui disent cryptage au lieu de chiffrement, il faut dire que le mot chiffrement se traduit par encryption en anglais, et que même en français, le sujet qui se rapporte au chiffrement s'appelle la cryptographie. Bon, je vais pas vous refaire le match façon numérique digitale, hein, j'en ai déjà assez causé. Chiffrement, cryptage, peu importe, l'idée c'est qu'on transforme un message de manière à le rendre incompréhensible à toute personne ne possédant pas la clé pour le déchiffrer. Ou le décrypter, donc. Et le chiffrement, c'est un peu la base de la sécurité informatique. En effet, le fonctionnement même d'Internet fait que vous ne maîtrisez pas le chemin que prennent les données pour aller d'un serveur à votre ordinateur ou téléphone, et vice-versa. De fait, il vaut mieux les chiffrer. Sinon, ça voudrait dire que tous les intermédiaires pourraient lire vos données comme on lirait le dernier voici dans la salle d'attente du dentiste. Enfin, le voici de décembre 98 dans le cas de mon dentiste à moi. Bref, ne pas permettre à d'autres personnes que les destinataires de lire ce qu'on envoie, c'est pas spécifique à l'informatique, hein, c'est vieux comme les sceaux en cire sur les parchemins. Et c'est pour ça que votre médecin ne vous envoie pas les résultats de votre IRM par carte postale, mais dans une enveloppe fermée en général. Pourtant, figurez-vous que les pouvoirs publics de pas mal d'États, dont la France, aimeraient beaucoup que votre médecin vous envoie les résultats de votre IRM par carte postale. Et que tout le monde, en fait, ne communique que par carte postale. Qu'on arrête un peu avec ces bêtises d'enveloppe. Hein. Avec, bien sûr, possibilité de mettre des policiers dans les bureaux de poste pour lire l'intégralité des cartes postales en question. Bah tiens. Non, ce que je dis est faux, hein, c'est une image. Mais comprenez bien qu'attaquer le droit au chiffrement dans le domaine numérique, ça revient en fait à peu près à ça. Et le droit au chiffrement est attaqué de toutes parts en ce moment, et c'est pas vraiment bon signe. La dernière affaire en date, c'est ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre. Le 8 décembre 2020 a eu lieu l'arrestation par la DGSI et le RAID de 9 personnes issues de l'ultra-gauche. Oui, alors dans mon texte, il y a des guillemets à ultra-gauche, hein, forcément à la radio vous les entendez pas. Non, parce que moi, ultra-gauche, ça m'évoque plutôt un super-héros hyper cool, hein. Ultra-gauche, ta-ta-da-da. Non mais c'est pas vraiment l'ambiance ici. 7 des fameux ultra-gauchistes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Et sur quoi se base cette accusation? Eh bien entre autres sur 1. L'utilisation d'applications comme Signal, WhatsApp, Wire, Silence ou ProtonMail pour chiffrer ses communications. 2. Le recours à des outils permettant de protéger sa vie privée sur Internet comme un VPN, Tor ou Tails. 3. Le fait de se protéger contre l'exploitation de nos données personnelles par les GAFAM via des services comme iOS, LineageOS ou F-Droid. 4. Le chiffrement de support numérique. 5. L'organisation et la participation à des sessions de formation à l'hygiène numérique. Et 6. La simple détention de documentation technique. Ah. Ah merde. Ah non, j'ai dit ah merde parce que sur les 6 points que je viens de lister, moi j'en coche facilement 4 ou 5. Bon, alors j'avais une conscience assez nette d'être un gauchiste, mais ultra c'est nouveau. Bon, remarque, c'est la classe, hein. Ultra gauchiste. Non, bon, ok, j'arrête. La DGSI précise dans une note à l'origine de l'affaire, tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin, avec une sécurité accrue des moyens de communication, applications cryptées. Ah bah ils ont pas eu le mémo sur le vocabulaire, tiens bon. Application cryptée, système d'exploitation Tails, protocole Tor permettant de naviguer de manière anonyme sur internet et wifi public. Ouais oui, même utiliser le wifi du McDo c'est suspect. Bon alors, même si les éventuels mots que vous ne comprenez pas vous font peur, sachez que la liste ne comprend que des choses relativement courantes, et même indispensables dans pas mal de domaines. Le médical, hein, c'est évident, mais aussi le domaine du légal, pour les communications entre avocats et clients, pour le journalisme, la protection des sources, tout ça. Donc la criminalisation du chiffrement, quelles que soient les intentions de départ, c'est dangereux. Et malheureusement, cette tendance ne se limite pas à la France. La Commission européenne a proposé en 2022, au nom de la lutte contre la pédopornographie, l'obligation pour les fournisseurs de messagerie chiffrée à donner accès à chacun de nos messages pour les vérifier. Alors, moi, lutter contre la pédopornographie, je suis pour, hein. Mais vous voyez, quand j'imagine un agent de l'État dans un centre de tri de la Poste ouvrir l'intégralité des enveloppes qui y transitent pour lire en détail nos correspondances privées, parce que c'est bien ça que ça veut dire, et ben même si c'est pour traquer des pédocriminels, j'ai du mal à l'imaginer autrement qu'avec des bottes en cuir et un brassard sur le bras. Pardon pour le point Godwin. Alors, j'en entends déjà me dire « Oui, mais ça va, on est en France, ça sera juste utilisé contre le terrorisme et la pédocriminalité, sinon ils s'en foutent de nos conversations privées, on n'est pas en Corée du Nord... » Bon alors, déjà, le monde ne se divise pas entre les méchantes dictatures 100% totalitaires et les gentilles démocraties toutes propres. Il y a un paquet de nuances, et force est de constater que la France glisse plutôt dans la mauvaise direction depuis pas mal de temps. Alors après, ça pourrait être pire, hein. On pourrait avoir un parti fasciste toujours plus près des portes du pouvoir depuis 20 ans, et qui aurait donc juste un gros bouton à pousser pour nous faire basculer beaucoup plus clairement du mauvais côté si d'aventure il passait les portes. Ah, et puis surtout, l'expérience montre que toutes les mesures antiterroristes sont systématiquement détournées pour des motifs politiques. Bah, demandez aux militants écolos qui s'étaient fait assigner à résidence pendant la COP21. Sur quelle base? Sur les bases de l'état d'urgence décrété suite aux attentats du 13 novembre 2015, évidemment. Et si l'affaire du 8 décembre montre quelque chose, c'est qu'en fait ça marche à l'envers. On vous dit, la limitation du chiffrement ne sera utilisée que contre le terrorisme, mais ça devient, l'usage du chiffrement sera un motif de suspicion de terrorisme. Bref, quand on vous dit « ça sera utilisé que contre le terrorisme », attendez-vous à ce que la définition de terrorisme devienne suffisamment large pour inclure à peu près tout le monde, hein, de votre voisine éco-anxieuse qui tracte pour Extinction Rébellion, à votre neveu geek de 13 ans qui bricole son petit GNU Linux dans sa piôle. Et c'est bien pour ça que la Quadrature du Net a publié sur Le Monde une tribune pour défendre le droit au chiffrement des communications, tribune signée par bon nombre d'organisations, dont l'April, évidemment, et que je vous invite à lire et à partager. Voilà, c'était ma dernière chronique pour cette saison de Libre à vous. Je suis désolé de finir sur une note aussi pessimiste. Pour le côté joyeux, voyez la chronique du mois dernier sur les événements libristes. En tout cas, je vous souhaite un bon été. Pensez à vous hydrater et à chiffrer vos communications. Et salut.
Merci, G. Alors, une question me brûle les lèvres. Alors, c'est la dernière chronique de cette saison, mais est-ce que tu penses nous faire profiter de tes humeurs la saison suivante?
Pas si vous voulez bien de moi, oui. Ah,
je pense que ce sera avec plaisir. On fera un petit sondage pour nos auditeurs, okay. Auditrices. Mais merci encore pour cette chronique d'utilité publique. Effectivement, l'April s'engage pleinement en soutien à ces tribunes de la Quadrature du Net, car bon, évidemment, il y a une menace pour le chiffrement, mais c'est bien toutes nos libertés informatiques qui sont menacées. Donc, il y a importance de faire un front commun. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'histoire et la vie d'un jeu vidéo libre, Zero AD Empires Ascendant. Avant cela, nous allons écouter Lemony par Minda Lacey. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Lemony, 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 there are too many, too many, too many, too many lemons in my pie. The pie was lemony, 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 there are too many, too many, too many, too many lemons in my pie. In the
Gemini, Gemini told me you ought to be what you want to be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines. Cause Gemini knows that amphetamines are good for a hell of a lot of things, like clearing out the skies and cooking them in pies. Amphetamines, amphetamines, amphetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And it's lemon, 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 the too many, too many, too many, too many lemons in my pie. Too many, too many, too many, too many lemons in my pie. Crammin' a Gemini found him, it crammed up in the chimney. Must have been from all the yummy amphetamines he'd been a-givin' me. And they were lemony, oh so lemony, that sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when he brought up the possibility of us finding the anemones to locate the enemies and reclaim our oh-so-precious abilities of making a lemony pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. A lemon, a lemon, a lemon, and the too many, too many, too many, too many lemons in my pie. The pie was lemon, a lemon, a lemon, and the too many, too many, too many, too many lemons in my pie.
Nous venons d'écouter Lemony par Mindal Lacy, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Je précise que j'avais eu le très grand plaisir d'interviewer Mindal Lacy l'année dernière dans le cadre d'une émission spéciale Fête de la Musique, puisque ça tombait à mardi 21 juin, et elle nous avait parlé de ce morceau justement, Lemony. Le lien de l'interview sur la page de l'émission.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur le jeu vidéo Zero AD Empires Ascendant. Un sujet animé par nul autre que Laurent Costi, qui reçoit pour l'occasion Stanislas Tolsini, chef de projet pour le jeu. N'hésitez pas comme d'habitude à participer à notre conversation, soit au 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, je te passe la parole.
Merci Étienne, bonjour à tous et à toutes. Un des arguments souvent avancés pour s'empêcher de passer sous GNU Linux, ce serait la pauvreté des jeux disponibles. Alors, il est vrai que si on cherche tous les jeux dernier cri qui collectent aussi beaucoup de données et de métadonnées sur nos usages, il y a encore quelques limitations. Néanmoins, de plus en plus de possibilités s'ouvrent et c'est bientôt les vacances. Nous avions parlé de Playit dans l'émission 155, outil libre qui permet de jouer à des jeux pas libres sous Linux, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu libre qui a acquis une grande renommée et qui existe depuis de nombreuses années. Alors il s'agit de Zero AD. Si on dit 0AD ou 0AD, tu vas nous confirmer ça. Et nous accueillons Stanislas, chef de projet bénévole, pour nous en parler.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors du coup, comment on prononce?
Alors, à la française, c'est 0AD. Si on en croit Wikipédia, c'est 0AD. En soi, le mot en lui-même est un mot qui désigne la période, enfin l'an zéro, qui est une période historique qui n'existe pas. En gros, on a moins un avant Jésus-Christ et moins un, enfin et un après Jésus-Christ. Le AD, c'est after death, donc après la mort. Enfin, anno domini d'ailleurs, donc c'est année de Dieu. Et du coup, voilà, avant on avait l'Antiquité, etc. Et donc en fait, ce nom-là a été choisi par des gens qui m'ont précédé pour ce côté justement qui permet d'une licence artistique un peu différente, en disant bah voilà, on fait un jeu qui a une grande connotation historique, mais on peut se permettre quand même de faire quelques écarts parce que ça reste un jeu, et donc ça leur a permis d'avoir ça.
D'accord, merci pour cette explication que je n'avais pas complètement cernée. Alors c'est vrai qu'on a quand même une forme d'universalité dans le libre où on essaie de trouver des noms quand même relativement imprononçables. C'est vrai que heureusement qu'il y a Empire Ascendant derrière, mais
c'est ça. Alors c'est un peu compliqué. On a quelqu'un qui est venu nous voir récemment. Mais vous avez choisi un nom pourri, ça va pas du tout, etc. C'est vrai que le nom a pas beaucoup d'avantages face à son prononciation. On vient souvent nous voir en demandant si OAD c'est bien, parce qu'en plus sur le logo le logo ressemble plus à un O qu'à un 0. Après on a un avantage non négligeable, c'est que dans tous les distributions Linux on est le premier paquet puisqu'on commence par un 0 et qu'on est tout en haut de la liste, ce qui aide quand même pas mal pour la visibilité. Mais ouais, du coup c'est toujours un peu compliqué d'avoir voilà, ils ont choisi un nom il y a 20 ans et maintenant on
fait c'est difficile de changer.
Après, à noter que du coup 0AD c'est l'équivalent d'Age of Empires, et en gros donc ça ferait si on avait Microsoft Age of Empires Age of Kings, donc Microsoft la boîte, nous ça serait Wildfire Games, 0AD et Empires Ascendant. Donc en fait l'idée c'était de faire plusieurs jeux. Bon, au bout de 20 ans on en est toujours au premier, on espère qu'on va le finir un jour et qu'on pourra faire d'autres choses, mais du coup l'idée c'était d'avoir Empire Ascendant, Empires Besiege et peut-être un jour une autre suite qui suivra le jeu.
D'accord, donc il y aura d'autres versions du jeu plus tard, au gré des volontés des développeurs. Justement, avant de rentrer peut-être plus dans le détail du jeu, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer comment on devient finalement responsable bénévole du jeu pour Age of Empire, enfin pour Zero AD.
Alors donc vous commencez par contacter Microsoft, non, en vrai moi ça s'est fait un peu naturellement. En gros, moi j'ai commencé il y a 12 ans maintenant. Je suis arrivé sur les forums de 0AD avec mon petit logiciel de 3D propriétaire, et puis je voulais juste faire des modèles 3D. Donc pendant 6 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé principalement sur les mods. Les mods c'est une modification de 0AD, donc en fait ça permet d'avoir du contenu additionnel au gré de des volontés de chacun sur le jeu. Et l'avantage des mods en l'occurrence, c'est que la barre d'entrée elle est plus basse, donc ça permet justement de pouvoir s'entraîner, de tester des choses, etc.
Mettre un pied dans la contribution du jeu sans que ce soit trop rude, quoi.
À noter que le jeu principal n'est qu'un mod du moteur de jeu derrière 0AD qui est Pyrogenesis. Et donc du coup j'ai commencé tranquillement à faire ça. Donc j'ai fait quelques civilisations, les civilisations des Chinois par exemple, qui a été ajoutée dans la dernière alpha là après 10 ans de négociations.
Donc une version alpha, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est quoi une version alpha?
Alors le mot clé alpha a beaucoup de significations différentes. Quand les personnes qui ont lancé 0AD ont dit qu'on était une alpha, ça avait un sens différent de maintenant. Le mot consacré actuellement, je pense que ce serait early access. L'idée c'est que accès rapide.
Accès donc, avant la version avant, définitive,
c'est ça, voilà.
Anticipé, je crois.
Anticipé, voilà. Accès anticipé. Merci beaucoup. Mais donc du coup, en fait, c'est le stade de développement aurait trois phases, la phase alpha, la phase bêta et la phase gamma. La phase gamma étant la version finale livrée par les sociétés qui font les jeux. Donc alpha, c'est on explore un peu, on essaie de rajouter de nouvelles fonctionnalités. Il risque d'y avoir des bugs, etc. Bêta, c'est les fonctionnalités sont fixées. Et du coup, on fait que corriger des bugs, et en fait, on polie le jeu jusqu'à ce que ça soit pour passer en gamma et ensuite vendre le jeu, ou en tout cas le mettre à disposition du plus grand nombre. Dans les années qui ont suivi, le mot clé alpha a un peu perdu son sens et on est plus passé sur bêta. Maintenant, les gens ont plus bêta et accès anticipé, c'est plus les mots qu'on utilise. Alpha, c'est vraiment un jeu avec des cubes, et c'est vraiment histoire d'avoir le gameplay à peu près tracé, mais il n'y a plus beaucoup de jeux qui s'appellent alpha comme ça.
D'accord. Merci beaucoup. Du coup, j'étais un petit peu coupé sur le jeu. Alors après, peut-être que tu peux nous expliquer en quoi consiste justement le jeu pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas.
Donc le jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait vous avez vous contrôlez une civilisation, vous avez choisi parmi 14 disponibles, et plus si vous utilisez des mods, qui vous permet, donc vous commencez avec un bâtiment, un certain nombre de personnages, Il va falloir aller récolter des ressources autour de vous pour pouvoir étendre votre civilisation, construire plus de maisons, construire plus de bâtiments, afin d'amasser encore plus de ressources. C'est un peu un jeu de déforestation par moment. Et du coup, ensuite, vous avez plusieurs modes de jeu différents. Donc le mode assez classique qui est commun à d'autres jeux comme Age of Empires, Starcraft, etc. C'est le mode conquête où il y a un autre adversaire qui est sur la même carte que vous et qui a exactement la même ambition que vous. Et donc vous devez vous développer plus vite que lui pour pouvoir avoir la suprématie sur lui. Mais on a d'autres modes de jeu. On a un mode de jeu merveille par exemple où en fait il faut construire une merveille le plus vite possible. Donc il va falloir quand même amasser des ressources rapidement. Mais le premier qui a construit sa merveille doit la faire tenir 10 minutes et il gagne la partie. On a des modes où il faut capturer des reliques qui sont éparpillées sur la carte. Et vous pouvez aussi combiner tous ces modes pour avoir un mode de gameplay un peu sympa où par exemple il y a des gens qui sont pas très très bataille, qui vont plutôt construire une ville, mettre des grands murs et essayer de se cacher derrière, et qui peuvent quand même gagner le jeu à travers un moyen alternatif.
Merci. Alors tout à l'heure je t'ai coupé, on était parti sur tu avais mis le pied dans le développement du jeu par les modes, et du coup quelle a été la suite après?
Donc j'ai continué à m'améliorer d'un point de vue 3D pendant quelques années. Finalement switché sur Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D libre, parce que du coup en plus ça permettait un échange un peu plus facile sur justement les assets, etc. Parce que les solutions propriétaires coûtent beaucoup d'argent, hein. On est 3DS Max, on est sur 3 000 € la licence à l'année. Quand on est étudiant ça va, quand on n'est plus étudiant c'est compliqué, il y a des licences.
Quand on est étudiant ça va parce que c'est payé par fac.
Non, parce que c'est en fait le... Oui. Des SMAX fournit des licences étudiantes avec des limitations. On peut pas faire ce qu'on veut avec les assets produits sur 3D SMAX. Il y a pas mal de législation un peu compliquée là-dessus. Et donc du coup Blender est arrivé dessus, et donc je suis passé dessus. Donc j'ai continué à m'améliorer. Donc au bout d'un moment en fait j'avais le même niveau que certains membres de l'équipe du jeu à cette époque-là, et ils m'ont dit si tu veux tu peux rentrer en tant qu'artiste. En fait la décision de me faire rentrer dans l'équipe a toujours été un peu complexe parce que je faisais pas que des trucs artistiques. Je faisais aussi du code, je faisais aussi pas mal de choses différentes. Et en fait, me donner accès au code source, à la modification, au fait de pouvoir vraiment infecter le jeu directement, présenter entre guillemets des risques sur le fait que si moi j'étais pas totalement clean, je pouvais commencer à taper dans des zones qui étaient pas forcément destinées. Donc ils ont mis longtemps à décider que je méritais la confiance et que je pouvais rentrer dans le jeu.
Parce que pour bien comprendre, ça veut dire qu'on sépare bien les compétences quand on invite des gens à contribuer au jeu. Il y a des gens qui ne font que du code et puis des gens après qui ne font que des choses artistiques, c'est ça?
La plupart du temps, oui, les compétences des gens sont assez fermées en fait. C'est souvent des gens qui sont très experts dans leur domaine de compétences et qui du coup ne font que ça, parce qu'en fait c'est... Il faut rappeler quand même qu'à la base, 0AD, c'est un hobby. Ça a été fait par des hobbyistes. C'était des fans d'Age of Empires et des joueurs du jeu qui se sont mis ensemble en disant on a beaucoup modifié Age of Empires, mais on est un peu limité, on voudrait faire notre propre jeu. Et donc ils se sont mis ensemble et ils ont créé, ils ont brainstormé pendant 3 ans sur comment ils allaient faire le gameplay, etc. Ils ont commencé à travailler dessus jusqu'en 2009. Donc ils ont commencé en 2000, ils ont fini en 2009, et ils ont dit ça fait 9 ans, nos vies ont changé, on n'a pas forcément les moyens de continuer, donc on va rendre le jeu open source, on va libérer le source code en espérant que ça lui donne un souffle. Donc ça a marché, hein, le pari était, 14 ans plus tard on y est toujours.
Donc ces gens-là étaient situés où?
C'était principalement des personnes américaines.
D'accord.
Ouais. Il y en avait un qui avait une grande passion pour les civilisations ibériques. Malheureusement, il nous a quitté en 2006, et une des versions porte son nom, l'Alpha 23 Kenwood, et en hommage à cette personne-là qui, est morte du cancer, malheureusement. Donc on a tout ce projet-là qui s'est lancé, Souvent, les personnes sont relativement précises dans ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens, ce qui les intéresse, c'est de travailler sur le moteur graphique, donc ce qui affiche les petits triangles, des polygones et tout, et des unités sur le truc pour que ça soit joli, etc. Et c'est la seule chose qui les intéresse. Le gameplay, alors que ça les concerne pas, etc. Donc c'est vraiment ça. Mais ce sont généralement des skill sets qui sont, enfin des
skills, ouais.
Excusez-moi.
Expliquer, je t'en prie.
Des compétences qui sont assez spécifiques et assez précises, et qui sont relativement pas communes dans le métier des programmeurs, etc. C'est vraiment domaine un peu de niche. Et donc bah en fait on a des gens comme ça qui bossent vraiment que ça. Moi j'avais l'avantage de, entre guillemets, pouvoir faire de l'artistique, pouvoir faire du code, pouvoir parler aux gens. Parce que même la compétence de parler à des gens, c'est pas
ça faisait partie de ma question suivante, ouais. Mais tu vas pouvoir y répondre. Mais du coup, des gens ont des compétences très spécifiques. Comment on fait pour les faire travailler ensemble finalement? Parce qu'à un moment donné, ça, j'imagine que ça doit interagir pour que le jeu puisse fonctionner.
Alors la réponse simple, c'est compliqué. Il y a des gens qui travaillent mieux avec d'autres personnes que d'autres. On a toujours tous des comportements et des caractères différents qui font que bah du coup il y a un travail de lissage à faire pour que tout le monde s'entende bien et arrive à travailler en harmonie. Après, 0AD a souvent travaillé par vague, dans le sens où on a eu pendant un moment énormément d'artistes. Donc on a fait avancer vachement la partie artistique. L'Alpha 24, c'était vraiment ça. On avait une nouvelle civilisation, on avait plein de nouveaux arbres, plein de nouveaux animaux, etc. Donc on a vraiment bossé là-dessus. Après, bah, les artistes disparaissent, ils ont d'autres choses, d'autres priorités dans la vie. Donc du coup, on passe sur du code. Et donc voilà, bah du coup, voilà, ça va être le moteur, des trucs de barbu un peu vétère. Et donc du coup, voilà, donc ça dépend vraiment. Et donc bah en gros, c'est faire travailler tous ces gens-là de manière en harmonie. Donc bah par exemple, les programmeurs vont souvent râler parce que les artistes sont entre guillemets un peu moins ils ont un peu moins rigoureux sur la façon dont ils gèrent leurs assets, etc., ce qui cause
leurs
des
assets,
bugs.
Ouais. Excuse-moi.
Ah pardon, les les éléments du jeu. Donc un personnage c'est un asset, un fichier qui contient les statistiques des unités c'est un asset, etc.
D'accord. Et donc, du coup ça veut dire que le personnage par exemple il va être trop volumineux pour dans les proportions, ça va être ça qui va poser problème après la programmation.
Il va être soit trop volumineux, soit il va coûter trop en performance parce qu'il a trop de détails pour sa taille par exemple. On va dire voilà, donc chaque personnage est composé d'un certain nombre de triangles. Plus il y a de triangles, moins il y a de performance. Plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Et donc du coup, si vous dépassez, je sais pas, par exemple, 20 000 triangles par personnage et que vous avez 20 000 personnages sur l'écran, forcément l'ordinateur il va avoir du mal.
D'accord.
À noter que 0AD tourne quand même sur des configurations qui sont relativement modestes. Donc des ordinateurs qui ont parfois 10 ans, etc. Et donc bah tout le monde ne peut pas faire tourner le dernier jeu AAA qui vient de sortir.
C'est clair.
Et donc c'est toujours un équilibre comme ça. Donc on a l'artiste qui veut absolument faire le truc le plus beau possible, le programmeur qui veut faire le truc le plus performant possible. Il faut trouver un juste milieu entre les deux en disant bah non, mais on va pas brider complètement les gens, mais d'un autre côté on va pas non plus laisser un champ des possibles incroyable pour que qui nous entre guillemets nous embêtera dans le futur.
Mais comment ça se structure du coup, toi, t'es chef de projet, alors pour la partie francophone, pour la partie comment ça travaille avec les communautés qui seraient pas en France, ou est-ce qu'il y a une communauté globale, et du coup est-ce que ton rôle justement c'est de mettre en lien ces personnes qui développent plutôt du code et les artistes?
Alors déjà faut, je pense, resituer sur la quantité de personnes qui travaillent sur 0AD. On n'est pas si nombreux que ça. Et du coup en fait on est plutôt en équivalent temps plein, on est peut-être 0,5 ou 0,25 ou quelque chose comme ça. C'est pas un truc où tous les gens travaillent tous les jours. On a des gens qui voilà sont dans des périodes de creux d'activité où là ils commencent à vraiment travailler.
Il y a aucun salarié, ça c'est sûr.
Non, d'accord. On est tous bénévoles. Je crois que sur les 23 ans d'existence de 0AD, il y a eu un mois de paiement, enfin de travail payé. Mais je suis même pas sûr en vrai. Je sais pas si ça s'est fait au final ou si ça a été tacite. Donc c'est vraiment 23 ans de travail acharné par des gens sur leur temps libre. Et donc du coup ouais, c'est toujours un peu c'est toujours la question qu'on a quand on arrive au salon en mode mais vous payez comment, mais ça vous rapporte, hein, à un moment donné vous faites de la pub, vous vendez des NFT, non?
D'accord, non mais c'est impressionnant. Tu dis 0,5, oui effectivement, j'imaginais que c'était quand même un peu plus si tu cumulais à toutes les, enfin dans tous les pays j'imagine,
ouais.
Donc t'es en lien avec des gens aux États-Unis très très quotidiennement.
Alors, aux US on en a beaucoup moins. Je pense que une des raisons principales pour ça, c'est que on est principalement européen maintenant. Ça a commencé full US. On est maintenant principalement européen, donc du coup ça fait que on a il y a des problèmes de time zone forcément, donc de fuseau horaire.
Ouais.
Et donc bah c'est pas forcément facile de contribuer avec des gens comme ça. À noter que les chats textuels ont tendance à augmenter la capacité des gens à se friter.
Ouais.
C'est très difficile de base, quand on parle la même langue, de faire passer des idées en chat textuel.
Oui, mais là, tout se fait des boulettes par mail, des choses comme ça, et des interprétations de mail alors qu'étaient pas dans le bon ton, etc.
Mais là, du coup, avec la barrière de la langue, ça rajoute une subtilité qui peut être un peu particulière. On a par exemple des personnes russes qui ont une façon de parler qui est relativement froide, même s'ils sont pas froids de base. Et donc, c'est des gens, en fait, que par exemple, on gagne à rencontrer en vrai. Parce que ça permet de relativiser sur la personne. Parce que si on la rencontre, sans la rencontrer, on a vraiment l'impression que la personne n'est vraiment pas à fond avec nous. Et donc, c'est toutes ces subtilités de chaque personne qu'il faut prendre en compte. Et essayer, voilà, de dire, tiens, toi, t'as envie de faire ça. Ok, c'est bien. Lui, il a envie de faire ça. Est-ce qu'il y a moyen que vous parliez et que vous fassiez un truc entre les deux pour que ça marche? Parce que du coup, quand lui, il aura fini ça, il pourra t'aider sur ton truc, etc. Donc, c'est un peu un système de faveur aussi. On travaille avec des gens, voilà, ils sont là sur leur temps libre. On peut pas les forcer à faire des choses. Si vous forcez trop quelqu'un à bosser sur son temps libre, il va juste partir et puis du coup vous avez personne pour faire même le taf qu'il voulait faire à l'origine, donc c'est pas optimal. Après, ça demande aussi beaucoup d'énergie de concilier tout le monde. Et c'est un truc qu'on peut faire par phase. Genre sur le long terme, ça finit par user les personnes qui le font. Et c'est pas forcément, enfin, c'est même des fois ça devient plus contre-productif parce qu'on n'est plus en état de gérer les gens. Et donc voilà, donc il y a pas mal de choses à mettre en place et en perspective comme ça.
Et du coup, tu parlais des Russes, il y a des occasions de les rencontrer au FOSDEM, des choses comme ça.
C'est ça. Bon là, du coup, c'est un peu difficile avec les configurations géopolitiques actuelles. Mais oui, du coup, on a pu le rencontrer plusieurs fois au FOSDEM. Donc, on avait des Hollandais.
Le FOSDEM, c'est une rencontre de libristes qui se passe à Bruxelles en général.
C'est ça. C'est quoi? C'est la plus grande rencontre internationale? Non, d'ailleurs, le FOSDEM. Y a pas un truc comme ça?
On se regarde, on croise nos regards, mais on n'est pas sûr. On va vérifier.
Ok, on vérifiera.
Merci.
Mais du coup, c'est une grande rencontre dans une université à Bruxelles, l'occasion de voir pas mal de gens. On sait beaucoup de projets, il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est rare qu'on voit d'autres gens qui font des jeux. Mais on y travaille, on essaie de réorganiser des choses avec Godot, donc le moteur de jeu libre. Ils ont bénéficié d'une carrière flamboyante ces derniers temps avec toutes les subventions qu'ils ont reçues, donc ils nous ont un peu snobé au FOSDEM cette année, mais on
d'accord,
mais on espère qu'on pourra quand même retravailler avec eux.
On leur lance un appel,
ouais, c'est ça,
dire, retravailler un peu avec les gens de Zero ID.
Non, avec tous les gens qui font du jeu vidéo dans le monde de l'open source, parce que je pense que comme je disais tout à l'heure, c'est une série de compétences de niche et on gagnerait tous à travailler ensemble plus. Parce que ça permettrait justement d'avoir plus de ressources pour chaque projet, quoi.
Très bien. Écoute, alors j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de la libération du moteur vers 2009. Je me trompe pas?
C'est ça.
Donc du coup, le jeu, il est libéré depuis 2009, et donc c'est un jeu libre finalement qui a pas mal de. Et avant 2009, il avait tourné quand même quelques années aussi.
En fait, c'était un freeware. Donc le code n'était pas libéré. Il était la possession des développeurs de l'époque. Mais du coup, le jeu était gratuit et c'était vraiment une volonté qu'ils avaient de le rendre accessible. C'est juste que je pense que l'open source n'était pas aussi développé à cette époque-là qu'il l'est maintenant. Et donc, du coup, ils avaient juste dit. On a failli, à un moment donné, se faire acheter par une boîte. Je crois qu'ils ont proposé 1 million d'euros, je crois, pour acheter le jeu avant qu'il devienne open source.
D'accord.
Mais du coup, voilà, donc c'est toujours un peu intéressant d'avoir l'évolution. On parle d'argent un peu. Il y a eu un crowdfunding en 2013. Sur une plateforme qui s'appelle Indiegogo, donc crowdfunding, amassement d'argent de masse par des personnes, donc et du coup cette campagne de fonds a pas forcément marché comme les développeurs l'attendaient. En gros, ils voulaient à peu près 160 000 euros, et même je pense que c'était même pas assez en vrai. Ça leur permettait d'embaucher un développeur à plein temps pendant un an pour essayer de finir le jeu. La dernière fois, j'ai regardé les forums et je suis tombé sur un post de 2010 qui disait quand est-ce qu'on finit le jeu? On n'est pas trop loin, etc. Donc voilà, on est encore là 13 ans après, donc je pense que on va toujours se poser la question. Mais c'est vrai que du coup, en fait, donc on a récupéré 40 000 euros sur les 160 000. Et contrairement à d'autres plateformes, Indiegogo permet au réceptacle de garder l'argent. Ça peut continuer à servir de fond, etc. Donc ça nous permet en fait nous de survivre actuellement. D'accord. On a à peu près 500 et quelques euros de frais de serveur par an.
Oui, bien sûr.
Plus 100 euros de Apple Developer, plus 2-3 autres trucs en plus qu'on paye tous
Apple
les ans.
Apple Developer, c'est-à-dire ?
C'est en gros pour pouvoir déployer des applications sur Apple.
D'accord.
Il faut payer 100 euros par an.
C'est chouette.
Et si jusqu'à 2019, c'était pas encore trop gênant de pas l'avoir. Maintenant, en fait, dès l'instant où vous, enfin, si vous ne faites pas tout le processus de validation par Apple, vous ne pouvez pas lancer d'application, enfin, sans obliger les gens à ouvrir des terminaux et à taper des commandes un peu obscures, à lancer des trucs. Si vous téléchargez une application qui vient de d'une source non signée, elle est marquée comme corrompue et il vous dit de la mettre à la corbeille.
Super, merci Apple. Très bien, donc l'argent que vous collectez, c'est vous en reversez voilà. Une petite partie. Hein.
C'est voilà, c'est ça. On, sympa. On supporte les GAFAM, on est vraiment à fond. Mais ouais, du coup, c'est ça. Donc en gros, c'est notre fonds de roulement. Là, il nous reste 27 ans, donc on a 27 ans pour finir le jeu. Et après, on a les donations chaque année. Donc en fait, tout le monde est en mesure de faire des donations. Je crois qu'il y a via PayPal ou dans certains cas, vous pouvez les faire par virement bancaire. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut contacter. Donc en gros, 0AD est sous le joug d'une entreprise, enfin d'une association à but non lucratif américaine qui s'appelle SPI, donc Software for the Public Interest, logiciel dans l'intérêt public, qui du coup manage, enfin gère les fonds de plusieurs projets, notamment Arch Linux, Battle for Westnot, donc il y a un autre jeu libre.
J'allais en parler. Ouais.
Voilà. Et d'autres projets, je crois qu'il y a Adelia Linux peut-être. Enfin, il y en a quelques-uns. Je suis pas sûr que Debian n'y soit pas aussi.
D'accord. Je ne saurais pas répondre.
Mais voilà, donc ils ont un certain nombre de projets comme ça dont ils gèrent les fonds. Et donc l'avantage, c'est que bah, comme c'est une association à but non lucratif américaine, ils ne payent pas d'impôts sur l'argent qu'on a.
Sur
en
les
fait.
Dons qui sont reçus, d'accord.
L'inconvénient, c'est que du coup, l'utilisation de l'argent est restreinte par ça. Même dans les questions d'entrée, etc. Est-ce qu'on peut pas, par exemple, vendre des choses de manière légale, parce que ils ont pas de but lucratif. Mm-hmm. Donc, pour justifier la réception d'échange entre guillemets, il faut que ça soit un échange en mode, je vous donne un t-shirt, vous me dites ce que vous voulez, mais en fait, moi, je vous donne le t-shirt, vous me donnez une somme d'argent. C'est un peu, voilà, oui. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est pour ça en fait, dès qu'on a des dépenses à faire et tout, c'est toujours un peu, faut qu'on s'arrange pour voir comment on peut faire des choses, comment on peut rendre ça légal, donc faire des devis, faire des choses, etc. Parce que du coup il y a toute la partie administrative à gérer derrière qui devient un peu plus compliquée.
D'accord, parce que du coup ça j'avais pas du tout appréhendé. Ça veut bien dire que la structure qui supporte finalement 0ID, et ça aurait pu être une association française s'il y en avait une qui avait été créée, finalement c'était au départ une structure qui a hérité du jeu à la libération en 2009, quoi.
C'est ça.
Hérité entre guillemets,
voilà.
Et qui en est devenu gestionnaire, alors je sais pas comment on dit pour une structure comme ça. D'accord, ok, ouais, donc effectivement ça vous renvoie aux États-Unis par rapport aux dépenses, c'est peut-être pas forcément simple.
Voilà, et du coup la raison pour laquelle il n'y a pas d'asso française de 0ID, c'est que pour l'instant, on n'est pas suffisamment nombreux pour justifier le travail juridique, enfin entre guillemets juridique, mais de management d'une association à faire, quoi. Si j'avais 25 personnes en France, peut-être oui, on envisagerait d'avoir un trésorier, un truc, etc. Mais là,
oui, il faut écrire des statuts, faire une assemblée générale ordinaire,
tous les ans, etc.
Création, etc. Ouais, faire une AG tous les ans. Enfin, après, ça dépend des statuts, mais oui, effectivement. En tout cas, ça demande une gestion qui, s'il n'y a pas beaucoup de monde, n'est pas forcément pertinente.
Et c'est du temps qui est mieux investi à gérer ou à travailler sur le projet, en fait.
Très bien. Alors du coup, c'est vrai que tu as parlé de Battle for Westnot, qui est aussi un jeu qui est quand même très connu dans les communautés du libre. Alors un peu comme Battle for Westnot, c'est quoi à ton avis les éléments qui ont fait le succès du jeu ? Parce que là, on peut considérer quand même que c'est un grand succès du libre. Pour les libristes, quand on leur parle de 0ID, en général, ils savent de quoi il s'agit. Comment tu expliques peut-être le succès du jeu ?
Alors bah, du coup, je pense que le nom a beaucoup aidé.
c'est clair.
Non, en vrai, oui. Donc le nom, le fait que ça soit gratuit, ça aide pas mal quand même, parce que du coup, ça propose non seulement une alternative open source à des jeux comme Age of Empires, Starcraft, etc., mais aussi une alternative gratuite. Et du coup, il y a beaucoup de gens. On a tous été enfants, étudiants, pas beaucoup d'argent, et c'est toujours sympa d'avoir un jeu qui est jouable et qui permet justement de quand même passer le temps. Là, on a eu un petit moment sympa quand j'ai reçu un message à Noël là, d'une famille qui justement faisait des parties d'Age of Empires tous les ans. C'était leur tradition quand à Noël ils faisaient ça. Et en fait cette année ils avaient plus assez de licences pour jouer tous ensemble.
Ouais.
Et ils sont tombés sur 0AD et du coup ils ont fait une partie de 0AD à la place. Donc ce genre de petit moment sympa qui fait plaisir, c'est le message qu'on aime bien recevoir. Je pense qu'aussi on parlait graphisme tout à l'heure, vraiment la qualité graphique, enfin la beauté du jeu a fait que c'est un de ses succès. C'est aussi une des raisons parfois pour lesquelles les performances peuvent être souffrir un peu, mais c'est vraiment ça qui dans le libre le fait briller, puisque en fait souvent on a pas mal de gens qui sont plus des programmeurs que des artistes à la base. Même s'ils ont tous un petit côté artiste sur le jeu vidéo. Et du coup, ça permet justement d'avoir... On a vraiment eu cette chance d'avoir des artistes qui ont pu contribuer et travailler sur 0AD. Notamment, en fait, ça vient surtout d'un problème de... comment dire ? Un programmeur a souvent plus de temps à associer à du libre, parce que le métier de programmeur paye suffisamment pour qu'on puisse se permettre de donner du code gratuitement. Mm-hmm. Un artiste, en général, aura plus le choix entre manger à la fin du mois ou contribuer à un projet libre, mais c'est rare de pouvoir faire les deux comme ça. Et donc là, on a vraiment eu la chance d'avoir des artistes qui pouvaient faire les deux et qui ont pu contribuer à 0AD sur le temps.
Alors j'avais une question sur le genre des artistes, du coup. On m'a fait remarquer dans la préparation de l'émission que les femmes avaient une poitrine assez forte, et du coup, la question un peu liée, est-ce que la majeure partie des artistes seraient masculins? Est-ce que ça pourrait avoir un lien?
Alors oui, la majeure partie des artistes a été masculin. Je pense qu'il y a eu, en vrai, il y a eu quelques filles sur 0AD au fil des années, mais du coup, ouais, la majeure partie des artistes étaient masculins. Lors de la refonte de toutes les unités, c'était une personne masculine qui a fait les designs. J'imagine qu'il avait des goûts très très personnels sur le corps des unités. Les garçons sont assez balèzes physiquement. Ont une démarche assez masculine et du coup bah, les personnages féminins ont un peu hérité de cet œil disons intéressant sur ça. Donc à noter que voilà, donc en gros voilà, on arrive avec des contributions comme ça parfois. Là en l'occurrence c'était un des artistes officiels de l'équipe, donc voilà, il a fait ses modèles. Le but c'était de passer 0AD 5 ans en avant, parce qu'on avait commencé à prendre du retard et nos modèles ils commençaient vraiment à être vieux. Donc bah du coup on a des contributions comme ça et bah après libre à chacun de venir et nous proposer un modèle féminin plus anthropomorphique.
Très bonne réponse, merci à toi. Je pense qu'on va s'autoriser une pause musicale, Étienne.
Ben, ça me paraît un bon moment dans le timing de l'émission, effectivement. Ben, je vous propose d'écouter ce qui est le thème principal du jeu, hein, Unbound par Omri Lahav. On se retrouve juste après, toujours à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Honor Bound par Omri Lahave, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons de l'histoire et de la vie d'un jeu vidéo libre 0AD Empires Ascendant dont nous venons d'écouter le thème principal, Honor Bound. Enfin, plus précisément, c'est Laurent Costi qui discute avec Stanislas Dolcini, chef de projet pour ce jeu. Et donc, bah, toutes les musiques du jeu sont sous licence libre, il me semble, hein, comme le reste des
assets graphiques, ouais.
Des assets, du coup, voilà, des assets graphiques, entendu. Quelle est l'histoire peut-être de ces musiques ou de cet artiste, comment il est arrivé, c'est ce musicien dans le projet ou...
Alors je crois qu'Omri a trouvé un peu le projet par hasard. Il était là et en fait, donc pour présenter un peu la personne, c'est une personne qui est, je crois, israélo-américaine, qui s'est joué d'un nombre d'instruments assez fort. Et du coup, qui s'est retrouvé sur le projet à composer ses premières musiques. En fait, à la base, il m'avait dit, il l'avait fait à l'oreille. Genre, voilà, il était arrivé. Les premiers morceaux de 0AD ont été faits comme ça. Il a joué un morceau, il a fait voilà, super, c'est bon, on le met dans le jeu. Et ensuite, en fait, plus bah, lui, son expérience, elle a augmenté. Je crois que là, il a fait une bande son pour une série qui a été au. Il y a eu un festival là sur des séries il y a pas longtemps à Lille, je crois. Du coup, il a fait toute la bande son. Je crois qu'il a fait des bandes son pour des films. Enfin, il a fait pas mal de choses différentes. Dans sa vie, et donc bah du coup fort de cette expérience, il a continué à faire des musiques bah, de mieux en mieux quoi. On a vraiment une chance incroyable d'avoir ces musiques là et surtout sous cette licence là. À noter là d'ailleurs que du coup on est en discussion, mais il y a un deuxième album qui a sorti parce qu'en fait le premier album est disponible sur Spotify et Bandcamp. Voilà, et puis bien sûr de façon libre sur le site, vous pouvez les télécharger directement. Et on est en train de travailler pour avoir le deuxième album. En fait, on a rajouté 26 nouvelles musiques dans la dernière version et elles vont être incluses dans un nouvel album entre guillemets disponible aussi sur ces plateformes là.
Merci pour toutes ces précisions. Donc effectivement, oui, ça faisait partie des questions. On avait vu les développeurs, on avait vu les artistes, plutôt sur la partie graphique. Donc là, ça complète un peu la manière dont le jeu se consolide avec la musique, qui est effectivement essentielle, hein, qui donne au jeu aussi cet aspect extrêmement intéressant. Alors tout à l'heure, c'est vrai que je t'ai posé plusieurs fois la question, on a dérivé, mais c'est je trouve plutôt naturel, du coup c'est sympathique. Mais est-ce que tu peux revenir un peu sur ton bagage initial qui a fait que tu es arrivé là où tu en es en bénévolat dans le jeu, quel parcours tu as en termes de formation initiale finalement?
Ok. Donc avant d'arriver sur 0AD, moi en fait donc j'avais 17 ans, donc j'étais encore au lycée. Moi à la base je voulais faire un peu de création graphique, etc. Donc je m'orientais plutôt vers une école d'art en fait, etc. Et puis bon, après avoir vu pas mal de conseils d'orientation et tout, ils m'ont dit non, ça va pas être génial, etc. Donc c'est le métier du jeu vidéo, c'est bouché, on va pas s'en sortir, etc. Donc je suis parti dans une carrière un peu plus classique. On m'a dit de pas faire de prépa, j'ai fait une prépa. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait mes 5 ans. Donc c'était une prépa intégrée, donc c'était un peu plus facile qu'une prépa classique, parce qu'il n'y avait pas le concours à la fin. Et donc du coup, ouais, j'ai fait 5 ans d'ingénieur. Donc c'était ingénieur généraliste. Donc j'ai fait de la méca, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait pas mal de choses différentes. Et après, j'avais une spécialité informatique et avec une petite cerise en plus, sécurité, voilà. Donc maintenant, actuellement, là, je suis consultant informatique pour une entreprise qui s'appelle OnePoint, voilà. Donc j'interviens sur chez des clients pour développer des solutions.
Alors pas en libre a priori?
Non, pas en libre. Non, on peut pas, malheureusement. Il y a des possibilités. Quand on va à l'open source experience, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui font du libre, mais ouais, c'est pas le cas.
C'est pour ça que tu t'impliques dans 0AD.
C'est ça. Et donc du coup voilà, donc pour finir vite fait l'arrivée, donc je suis devenu artiste, je suis rentré dans l'équipe, et puis en fait le chef de projet qui était en thèse sur de la physique des supraconducteurs a commencé à s'effacer de plus en plus parce que bah du coup ça prenait quand même beaucoup de temps. Et en fait petit à petit bah j'ai repris des petits morceaux par-ci par-là, etc. Donc je les ai ajoutés à mes responsabilités précédentes, jusqu'à ce qu'en fait à un moment donné ils me disent bon bah est-ce que ça te dirait pas de devenir le chef de 0AD? Alors moi c'était pas exactement là que je voulais aller. En fait, je pensais qu'il allait finir sa thèse, revenir, et puis que je pouvais continuer à travailler dans mon coin, etc. Et du coup, je me suis retrouvé avec ce poids-là sur les épaules. Le début a été relativement compliqué, parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas sorti de version. Donc j'avais une pression. Alors, la pression, moi je préfère la boire, mais là du coup je me la suis mis très fort sur les épaules.
C'est quelle année ça? Quand tu dis
C'était en 2020. C'était l'année juste avant le Covid, je crois.
D'accord.
2020, ouais, c'était 2020. C'était la dernière année avec le FOSDEM. On y allait. Et du coup, voilà, on m'annonce, du coup, je vais arrêter. Et puis, est-ce que tu veux prendre les rênes du projet? Et donc, du coup, la version peinait à sortir. On avait pas mal de problèmes. Il y avait les distributions Linux qui nous disaient, vous dépendez de telle dépendance. Nous, on va la supprimer. Donc, 0AD va disparaître de toutes les distributions. Faut que vous sortiez une version et tout. Donc ouais, c'était vraiment pas un bon début. Puis du coup, je pense que j'avais un peu la pression de faire mes preuves, en mode genre on m'a donné ce titre mais je le mérite pas, et donc du coup j'ai vraiment pris cher sur cette année-là. Du coup, j'ai finalement réussi à sortir une version, puis j'en ai sorti une autre, puis là on a sorti l'Alpha 26 l'année dernière. Là on devait sortir l'Alpha 27 courant été, et en fait là, je suis pas. Enfin, actuellement, j'ai pas assez de temps pour le faire, donc on a préféré justement la reporter en disant, comme ça, en fait, en gros, notre process fait que lorsqu'on va sortir une version, on arrête de développer des nouvelles fonctionnalités, ce qui fait qu'on perd des contributeurs parce que les gens ne sont plus intéressés. Enfin, l'intérêt, c'est genre de corriger tous les bugs qui vont arriver, et en général, il y en a quand même assez grand nombre. Et donc, du coup, tous les gens ne veulent plus contribuer parce que c'est plus fun. Il y a plus que des bugs à corriger, et ça, personne n'a vraiment envie de le faire. Et du coup, en fait, plutôt que de bloquer le développement en disant, peut-être dans 4-5 mois, je serai en mesure de faire une nouvelle release, on a dit, bon, on arrête le process, on recommence comme si c'était une nouvelle version, vous continuez à ajouter des fonctionnalités, et puis on verra dans 6 mois comment ça se passe, quoi.
Très bien, merci pour ces éclairages encore. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que le jeu n'est pas fini? Quand est-ce que vous estimerez que le jeu est fini? C'est quoi votre but, votre horizon pour dire que le jeu sera vraiment terminé?
Alors, je pense que il y a une façon dont le jeu va se finir, c'est si un jour il n'y a plus de contributeurs. Ça sera la fin technique du jeu. Comme je disais, le jeu est la somme des travaux de chacun des contributeurs. Du coup, ça peut ressembler à justement un amalgame un peu étrange vu de l'extérieur, mais c'est du coup un peu ce qui fait sa force aussi, parce que c'est des gens avec des motivations différentes qui travaillent sur un projet comme ça. On va avoir des gens qui sont vraiment à fond sur le gameplay, la compétitivité, les statistiques, etc. On va avoir des gens qui vont être en mode je voudrais que les arbres y repoussent, je voudrais pouvoir gérer ma ville, je voudrais pouvoir avoir plus de ressources, etc. On a des gens qui font des modes qui ont rien à voir. On a un mode Zelda avec 14 civilisations ou 16 civilisations de Zelda, on a un mode My Little Pony, donc plein de petits poneys avec des Pégases, des licornes, etc. On a vraiment des gens qui contribuent de manière complètement différente. Et je pense qu'en fait, du coup, le jeu, il sera fini quand... Enfin, le moteur aura peut-être une stabilité qui fera qu'on aura un jeu stable, en mode, c'est la performance est OK, tout le monde peut jouer, on n'a pas de gros bugs majeurs. On va avoir peut-être des trucs en multijoueur, par exemple, je sais pas, on a les sauvegardes multijoueurs qui sont une fonctionnalité sur laquelle il y a une prime de 240 € dessus pour que la feature se fasse. C'est le genre de feature de fonctionnalité où les gens sont, enfin voilà, c'est des trucs qu'ils veulent. Après, on a des choses qui varient en fonction. Peut-être qu'un jour, moi, je serai plus chef et que le prochain leader aura une idée beaucoup plus poussée sur un aspect du jeu et dira, on peut pas sortir tant qu'on n'a pas fait ça. Moi, ma ligne directrice actuellement, elle est moins sur la fin du jeu et plus sur le fait de le partager au plus grand nombre. Notamment là, j'ai travaillé avec une école à Rennes qui s'appelle Active Design, qui fait une formation artistique uniquement avec du logiciel libre. Et du coup, on a travaillé avec une équipe d'étudiants pour qu'ils fassent un mode de 0AD. C'est ce genre de choses qui me font vibrer, en mode on peut partager. Parce que moi, en fait, 0AD, ça a été quelque chose qui a été très très formateur. Que ça soit au niveau artistique, mais surtout au niveau du code aussi, parce qu'on a tendance sur beaucoup de projets open source à avoir une espèce de pureté du code qui est parfois un peu malsaine, mais qui permet aussi justement d'avoir entre guillemets de la qualité. Et du coup, bah, ça m'a entraîné à justement aller chercher un peu plus loin, à regarder la petite bête, faire abattant. Là, j'ai fait.
Pourquoi ce serait malsain ? Parce que
du coup, dans toutes les choses, si l'extrême est poussé à bout, d'accord, on fait plus rien. En fait, un projet open source où on dit tout ce qui n'est pas parfait n'arrive plus dans le jeu, fait que du coup il y a quasiment rien qui rentre dans le jeu.
Le mieux est l'ennemi du bien.
C'est un peu ça, voilà. D'accord. Et en fait on a même des personnes, et en fait souvent les personnes qui enforcent ça ne sont pas foncièrement parfaites non plus. Et donc eux font des choses qui sont pas forcément parfaites, mais reprochent à d'autres gens, et donc bah ça crée un climat qui peut être un peu tendu au niveau des choses. Comme je disais, il y a dans le monde des programmeurs, il y a deux grandes catégories, il y a les défricheurs et les jardiniers. Il y a des gens qui aiment que tout soit bien ordonné, et il y a des gens qui aiment explorer et faire des choses. Mais si on a que des jardiniers, le jeu il avance pas, parce que du coup on est sur soit ce qu'on sait faire, on fait que corriger les petits détails, on réécrit pour la 20e fois la même chose. Mais si on a que des défricheurs, le jeu il marche pas, parce que du coup voilà, on a taillé la haie, on est passé à travers, on est chez le voisin, on a vu un nouveau monde. Mais du coup à un moment donné il va falloir réparer un peu tout ça, histoire que le chemin il tienne la route.
Merci pour cette analogie, je trouve que c'est intéressant pour les gens qui n'appréhendent pas du tout comment on peut se concevoir un jeu vidéo, je trouve que c'est assez éclairant. Alors on a parlé des artistes, des graphiques, pour le graphisme, on a parlé des musiciens, on a parlé des codeurs, et pour l'aspect historique, alors est-ce que vous avez dans la communauté des gens qui sont là pour, qui sont motivés par les questions historiques pour faire respecter par exemple des questions anachroniques qu'il pourrait y avoir dans le jeu? Comment ça s'intègre dans la communauté, ça?
On a des gens qui sont... je pense, alors c'est assez rare, souvent c'est des personnes qui sont assez secrètes, donc j'imagine qu'il doit y avoir des considérations d'informations qui ne sont pas autorisées à divulguer, etc. Peut-être parce que du coup dans les recherches qu'ils font ils n'ont pas le droit, ou alors que c'est un peu comme c'est quoi, c'est Sci-Hub là où il y a tous les papiers de recherche, où bah normalement c'est 150€ pour pouvoir accéder au manuel ou à l'information, d'accord, etc. Donc peut-être qu'ils sont pas autorisés, donc souvent c'est des gens qui ont quand même un espèce de voile opaque sur qui ils sont et ce qu'ils font. Ils nous donnent des informations, ils nous disent bah voilà, par exemple les Celtes ils faisaient ça, donc on a genre les tonneaux par exemple sont une invention celte. Donc les Gaulois l'ont inventé, donc par exemple on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de tonneaux chez les Romains. C'est ce genre de choses là qu'on peut avoir. On peut avoir des choses sur les formations, on peut avoir comment les unités se mettaient en bataille, etc. On peut avoir des choses sur les équipements. Là par exemple dans le jeu on a essayé, pour les Gaulois on a vraiment été au bout de la recherche. On a pas mal de choses avec un home du 4e siècle, un home du 3e siècle. En fait 0AD découvre la période de -500 à 0 actuellement, et du coup on a des homes qui correspondent à toutes les périodes. Alors c'est pas des améliorations, ils apparaissent de manière aléatoire, mais du coup ils sont factuellement corrects, ils ressemblent à la réalité, ils ont les mêmes caractéristiques qu'un vrai home, donc avec des épées en bronze, des épées en fer, ceux-là ils avaient ça, eux ils avaient des boucliers, eux ils avaient pas de boucliers parce qu'en fait ils en avaient pas besoin. Les Spartiates par exemple, jusqu'à je crois -100 avant Jésus-Christ, n'avaient pas de mur, parce qu'ils considéraient qu'en fait de toute façon comme tout le monde était entraîné au combat, se cacher derrière un mur ça avait aucun intérêt parce que tout le monde allait se battre de toute façon, donc
intéressant.
quand leur civilisation a commencé à décliner des siècles après, là ils ont construit des murs, ils ont fait bon bah là on peut plus protéger tout le monde, voilà. Mais après il y a des choses, par exemple on parlait de du rôle de la femme tout à l'heure dans ce cas là chez les Gaulois c'était un peu plus égalitaire. Chez les Grecs, à part les Spartiates, la femme on les voyait pas, elles étaient dans les bâtiments, et donc techniquement par exemple il faudrait qu'on les enlève toutes et qu'on les fasse disparaître et qu'on remplace tout par des travailleurs masculins dans le truc. On a des considérations comme ça qui pourraient être intéressantes aussi à pousser
et qui sont échangées sur le forum de la communauté.
C'est ça, voilà. D'accord. On a eu par exemple le plus gros travail historique que j'ai vu, c'est sur la civilisation des Kushites, qui est une civilisation qui correspond à peu près à l'Éthiopie moderne. Et donc c'est 25 pages de forum avec des recherches, avec des fouilles archéologiques, avec des informations et tout. Tout est public, vous pouvez aller voir sur le forum, etc. On a fait des recherches sur les voies. Alors, en gros, dans 0AD, on a un objectif qui est plus ou moins atteignable, d'avoir les personnages qui parlent la langue de l'époque. Donc pour toutes les langues qui ont été perdues, le proto-celtique, etc., toutes les vieilles langues, c'est compliqué. Par exemple, les Bretons, je pense qu'on va utiliser du gallois. C'est la dernière langue qui est pas dans la bonne branche des Celtes, mais c'est la langue qui est la plus proche de ce qu'on pourrait avoir. Mais pour les Couchites, par exemple, c'était du méroïtique. Donc c'est une langue qui était parlée à l'époque. Ils ont trouvé les hiéroglyphes correspondent à des sons. On a fait de la phonétique et puis du coup, voilà. Donc les voix dans 0AD des Couchites sont c'est ma voix et d'une autre personne qui était avec moi.
Ah oui, je pensais pas toucher du doigt ce sujet-là en parlant de 0AD, mais du coup, ça ouvre vraiment des perspectives pédagogiques potentiellement sur les questions historiques, enfin avec des enseignants qui pourraient se pencher sur ces questions-là en allant voir le forum et puis du coup en faisant jouer les jeunes. Moi, je trouve que là le lien il est extrêmement intéressant. Quoi.
On avait des gens qui étaient dans la recherche, etc., qui nous avaient demandé. Alors ça se fait rarement parce que bah du coup ça demande un investissement assez conséquent des deux côtés. En mode bah voilà, nous on voudrait montrer, je sais pas, une période du néolithique. Avec 3-4 bâtiments, montrer les trucs, déplacements, etc. Et c'est des choses qu'on peut faire. On peut aussi dans 0AD importer des informations géographiques type OpenStreetMap pour faire des terrains qui sont correctement, voilà, avec les montagnes, etc. Et donc par exemple, ça permettrait d'importer voilà trois zones des cavernes dans un setting particulier avec des informations et puis de pouvoir montrer des choses, etc.
Toute la zone d'Alésia qui pourrait être refaite.
C'est ça par exemple. Ouais. C'est possible aussi.
Très bien. Alors du coup, je poursuis un petit peu sur cette question de. Enfin d'anachronisme ou de comparaison avec un jeu commercial. Alors je connais un tout petit peu le jeu commercial privateur World of Tanks, où effectivement ils sont aussi partis d'une base finalement historique, hein. Le jeu initial c'était de reproduire des tanks qui ont existé et de les faire après les mettre, enfin faire des batailles avec ces tanks là et évidemment comme c'est un jeu commercial, à un moment donné ils sont obligés de rendre les chars plus performants pour que les gens achètent, etc. et du coup ils sont forcés de prendre des prototypes qui n'ont pas existé. Du coup, finalement, quand on est dans un jeu libre, on n'a pas cette contrainte-là. On n'est pas obligé d'avoir des anachronismes pour rendre le jeu attrayant, quoi. Finalement, on n'a pas cette contrainte-là.
Alors, on l'a pas directement. Dans l'absolu, c'est la même analogie qu'avec le code. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait écrire du code parfait. On pourrait faire un moteur avec 100% du code qui est 100% parfait et qui tiendra toute la vie et ce sera bien. Le souci, c'est que à la fin de la journée, ça reste un jeu, et que comme les attentes des jeux ont changé ces dernières années, là maintenant, on est sur du extrêmement compétitif. Il y a encore des jeux vraiment solo, etc. Mais souvent, ils ont une petite dose de compétition ou de quelque chose qui est plus tout à fait personnel. Plus on essaie d'en partager sur les réseaux, on montre des trucs, là je sais pas, je pense à Zelda là par exemple, où pas mal de gens montrent leur création. Là il y avait Diablo où il y a des boss où justement ils sont pas jouables tout seuls, il faut absolument jouer avec des amis dessus, sinon on peut pas finir le jeu. Et en fait donc là on a une communauté sur 0AD qui est très très vocale sur la question de l'équilibrage et du multijoueur. C'est pas la majorité de nos joueurs, mais c'est les joueurs qu'on entend. Parce qu'on entend rarement les joueurs qui sont contents et qui jouent chez eux au jeu. Et du coup, en fait, on a du mal à établir qui... Enfin, quand on fait un changement, par exemple, on sait qui est pas content, mais on sait pas si les gens qui jouaient chez eux sont contents du nouveau changement qu'on a fait. Et en fait, souvent, ça peut finir en chambre d'écho où vraiment, on a l'impression qu'on fait que des changements qui leur plaisent pas, quoi.
D'accord.
Et donc là, pour cette question-là aussi, c'est... On peut aller très loin dans l'historique, faire des recherches. Ah bah tiens, là le bâtiment il avait 15 colonnes, il était plus large, etc. Mais du coup, si le jeu il est plus jouable parce que bah en fait pour placer, je sais pas, le monument d'Halicarnasse, il faut une carte qui fait 20 par 20 et que nous on a que des cartes qui font 10 par 10. Bah enfin voilà, donc les gens ils peuvent pas en profiter, le modèle il sert à rien et donc on a quand même des contraintes techniques qui limitent un peu le côté historique. Après, entre guillemets, c'est un débat. Il y a des gens qui vont nous dire, ouais, mais en fait, on s'en fiche des gens qui veulent jouer en multijoueur. Nous, on veut absolument qu'on ait, bah là, c'est une armée avec 4000 personnes. Je veux 4000 personnes. Le reste, c'est pas intéressant, quoi. Donc, c'est toujours un équilibre un peu fragile à trouver. Souvent, ça se joue à la motivation des développeurs plus qu'à la motivation de la communauté. Sachant que parfois la motivation des développeurs est directement corrélée à la communauté, parce qu'on a rarement envie de travailler quand tout le monde est un peu négatif.
Bien sûr.
Et donc du coup voilà, donc c'est ça, c'est peut-être un jour il y a quelqu'un qui va venir en mode oh j'aimerais bien changer ça et tout. Souvent quand la personne nous dit j'aimerais bien changer ça, est-ce que vous pouvez me montrer comment faire? déjà on a un peu plus enclin à faire le truc plutôt que de toute façon là votre palace Moria il ressemble à un bus, vous avez aucun sens du truc. Voilà, c'est
bien sûr.
Il y a la façon, etc. Et des fois en fait même des choses anodines comme ça motivent un développeur. Justement les coucheats c'était vraiment partie de on ajoute plus de civilisation dans le jeu, on fait plus rien, etc. Et il y a ce document sur les forums qui est apparu. Et du coup, il y a un artiste qui était vachement motivé. Il a fait, bah, vas-y, je vais faire tous les bâtiments et ça va être bien. Et en fait, on s'est retrouvé avec une civilisation. On fait, bah, c'est dommage, là, on l'a fait en entier. Est-ce qu'on devrait pas l'intégrer, quoi?
Bah, merci encore une fois. Ça éclaire la manière dont se consolide le jeu au fil du temps. Alors, il nous reste un peu plus de 7-8 minutes. Je te laisserai le mot de la fin pour dire éventuellement ce que tu aurais oublié de dire et qui te semble extrêmement important à dire. Alors, on m'a quand même signalé une biche peu farouche qui s'immisce entre le bûcheron et l'arbre que ce bûcheron essayait de couper. Alors, parle-nous-en un peu si tu peux.
Ouais. Alors, c'est un problème. Il y a le bon et le mauvais chasseur, mais non. En vrai, ça c'est des cas de bord souvent. Quand on a beaucoup d'unités, beaucoup de choses, etc. On a forcément des effets de bord qu'on n'a pas pensé. Ah bah tiens, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité. La biche se déplace toute seule. Oui, mais par contre, du coup, maintenant, elle se met sur les terrains de construction. Qu'est-ce qu'on fait quand elle est sur le terrain de construction? Est-ce que du coup, on la laisse au milieu? Est-ce qu'on lui dit de partir? Mais si elle peut pas sortir, comment on fait? Donc là, c'est genre typiquement des effets de bord liés à...
Ouais, qu'on découvre à l'usage.
À la complexité. Et, ouais. Et bah, du coup, j'en profite pour dire aussi qu'il y a peu de développeurs qui jouent vraiment au jeu. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment fans et qui veulent vraiment faire ça et qui profitent du jeu. Moi, je sais que c'est assez frustrant comme expérience parce qu'en général, je joue 3 minutes et puis soit je vois des bugs, soit je me fais raser par n'importe quel joueur qui veut jouer avec moi ou l'IA, parce que l'IA est quand même relativement forte quand on n'est pas très expérimenté. Donc le côté fun peut partir très vite. Puis moi, ce qui me motive vraiment, c'était de construire le monde plus que d'y jouer en fait. C'est plus de pouvoir d'être dans ce partage là et de dire bah voilà, quand j'étais petit, j'ai joué à plein de jeux vidéo, ça m'a fait passer des bons moments, des mauvais moments, ça m'a permis de justement d'oublier les mauvais moments aussi en jouant, et là j'ai l'occasion de pouvoir rendre ça de manière entre guillemets gratuite pour moi, parce que du coup voilà, c'est mon temps que j'investis, mais ça me fait plaisir et c'est cool, et donc ça me permet de rendre un peu entre guillemets à tous ces gens.
Alors j'ai essayé de rajouter 2 personnes à la communauté, donc tu vas nous donner le chiffre, enfin ou les chiffres que vous connaissez qui sont relatifs, mais alors il y a une personne, Loris Elison, 15 et 18 ans. Alors la première personne, Loris a pas réussi à installer parce que le disque dur était un peu saturé, et puis du coup j'avais demandé quelques retours à Elison, alors qui me disait qu'elle découvrait le jeu, qu'elle a passé 3 heures déjà à faire le tutoriel, à découvrir le jeu, donc elle s'est investie quand même sur la découverte du jeu. Elle a plutôt apprécié le côté historique et effectivement tout l'aspect décor que tu signalais, qui est effectivement très significatif du jeu, qui donne une signature au jeu, moi, que je trouve extrêmement intéressante. Voilà, elle a fait du mal à lire un peu les conseils quand il y a des moments de téléchargement, et elle trouvait que ça passait un peu vite, donc elle se posait la question de savoir si on pouvait les retrouver dans le jeu. Donc mes 2 questions, est-ce qu'on peut répondre à cette question là et puis nous éclairer sur finalement la communauté. Tu me parlais de nombre de téléchargements tout à l'heure.
Alors du coup, pour répondre à la question sur les tips les astuces du jeu, ils ne sont pas, enfin, il y a pas actuellement de moyen de passer les astuces pour les voir toutes. Par contre, du coup, le jeu est open source, donc si vous voulez aller chercher, vous pouvez les trouver. Ce sont des fichiers texte qui sont dans les assets du jeu, et donc il y a moyen d'avoir des choses.
Ce qu'on ne peut pas faire sur un jeu privateur, puisque le code est fermé. C'est une très très bonne réponse, merci.
Et concernant les joueurs, etc., en gros, on sait qu'on a à peu près 300 000 téléchargements par an. Les stats sont publiques et visibles sur le forum, enfin sur la page de téléchargement. On a 20 000 personnes qui ont installé le jeu sur Ubuntu. On sait qu'on a on a une centaine de joueurs par jour qui sont sur le lobby multijoueur. Ça dépend, ça varie. On est monté à 400 pendant le Covid.
Le lobby multijoueur, c'est le serveur que...
C'est un canal de discussion intégré au jeu qui permet à des joueurs de trouver, de discuter avec d'autres joueurs et de trouver des parties et de pouvoir se connecter à distance sans justement avoir à rentrer des adresses IP, des choses compliquées. Vraiment, c'est double clic, etc. Donc, il y a d'autres considérations, mais voilà. Et donc du coup, il y a une centaine de personnes là-dessus qui se connectent. On est monté jusqu'à 400 du coup pendant le Covid. Et voilà, donc ça c'est ça. Après on a le jeu dispose d'un système de retour anonyme qui permet d'avoir des informations sur le matériel qu'utilisent les joueurs, donc le processeur, la RAM, la carte graphique, etc. pour avoir des infos en mode est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle technologie parce que 90% de nos joueurs les supportent, etc. Et après en fait ça nous permet justement de prendre des décisions en disant bah là il y a une nouvelle un nouveau moteur graphique qui est sorti, on pourrait l'intégrer, mais du coup il y a 1% de nos utilisateurs qui le supportent, donc ça a pas d'intérêt, enfin genre le travail il vaut pas le coup. Mais du coup voilà, donc on a des petites infos, et donc ces infos là nous disent que elles sont anonymisées, mais en fait vous avez un ID, vous pouvez changer en modifiant dans le etc. Et cet ID là, bah il nous dit il y a 1500 personnes par jour qui nous pingent en nous envoyant le message avec leurs statistiques. Donc on sait qu'il y a 1500 personnes par jour qui lancent le jeu. Mais c'est pas toutes les mêmes, heureusement, parce que 1500 personnes qui lancent le jeu tous les jours, j'aimerais bien avoir leur temps, mais du coup ouais, c'est ça. Et donc bah voilà, donc on sait que on a quand même des gens qui nous sont fidèles. Ça fait toujours plaisir d'avoir des statistiques comme ça.
Voilà, les statistiques qui sont extrêmement minimalistes, mais c'est volontaire. Effectivement, ouais. Vous souhaitez pas savoir énormément d'informations sur les personnes qui se connectent, contrairement effectivement aux plateformes qu'on c'est connaît. Ça.
Après, du coup, il y a des inconvénients aussi. Par exemple, on sait pas le taux de rétention. On sait pas combien de personnes lancent le jeu et ne l'ouvrent plus jamais. Et par c'est exemple, sûr. Parce que le menu, il serait trop compliqué, etc. On a des statistiques comme ça qu'on n'a pas et qui pourraient nous être utiles en mode, voilà.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, ça se trouve, on a 1500 joueurs par jour et c'est 1500 nouveaux joueurs. Mais donc, la population de la Terre étant finie, à un moment donné, on va arriver au bout.
Très bien. Est-ce que tu as encore une dernière chose à nous dire?
Non, bah, merci de m'avoir reçu. Je suis très content de pouvoir passer à la radio. C'est la deuxième fois et c'est cool.
Non, mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. Il y avait plein de sujets que je ne soupçonnais pas aborder, que je ne pensais pas aborder pendant le cours de l'émission. Je repasse la parole à Étienne. Merci.
Je vais rejoindre Laurent pour remercier Stanislas. C'était très intéressant à écouter. C'est toujours passionnant, en fait, d'écouter des gens parler des projets qui les animent et qui les passionnent, justement, pour utiliser ce terme. Et c'est un grand plaisir de vous écouter. Et puis, je vous propose à présent de faire une nouvelle pause musicale. Nous allons à présent écouter Comme une philosophie par La Muette. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Sur la feuille d'un arbre, associés malfaiteurs de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame, tu finasses avec art sur notre firmament, tu épouses la courbe d'un temps qui odieusement a bouffé le beau cœur des amants. Comme une philosophie, la dame d'un camp, fleurissant les oreilles du vent. La voix est sans issue de discours, tout est mot, parle d'amour. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame. Sauras-tu admirer ma cambrure et mes charmes au toucher d'une main masculine qui te dira décline. Tombe donc dans le trou par toi-même creusé. Ton fossé sans
s'appelle Couler la femelle. Me vaudrait dans la forme imbécile et le produit de pile. Qu'au nom de ton erreur.
Nous venons d'écouter Comme une philosophie par La Muette, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Marie-Odile Morandi, membre du conseil d'administration de l'April et animatrice du groupe Transcription, partage ses choix, voire ses coups de cœur, qui mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. Une chronique lue par la talentueuse Laure-Élise Daniel, professionnelle de la voix, qui nous la prête bénévolement pour la réalisation de ses chroniques et pour certains jingles de l'émission. Le sujet de la chronique aujourd'hui, faire évoluer la mentalité des décideurs en France et en Europe. On se retrouve dans 10 minutes environ, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au début du mois d'avril, s'est déroulé le Forum international de la cybersécurité, le FIC, à Lille. La dernière séance plénière de cet événement s'intitulait « Cloud, l'Europe veut-elle faire sa révolution ?» Cette séance plénière se composait entre autres d'une table ronde menée par Julia Siéger, à laquelle participaient messieurs Tariq Krim, Alain Issarni, François Pellegrini, Michel Paulin et Dimitri Van Zandvliet. Elle était précédée respectivement des interventions de Tariq Krim et Alain Issarni. La transcription de ces trois moments vous est proposée à la lecture, voire relecture. Vous trouverez les liens dans la page des références de l'émission d'aujourd'hui. Tariq Krim est entrepreneur, pionnier du web français, spécialiste de la géopolitique du numérique. Alain Issarni a récemment été nommé à la direction du fournisseur de cloud français, NumSpot, qui entend proposer prochainement un cloud de confiance. François Pellegrini a endossé sa casquette de vice-président de la CNIL, la Commission de l'informatique et des libertés, puis de professeur des universités. Michel Paulin est le directeur général d'OVH, entreprise qui propose des prestations de cloud. Dimitri Van Zandvliet est le chef des systèmes d'information des chemins de fer néerlandais, il intervient en anglais. Ses propos ont été transcrits puis traduits par le groupe Traduction de l'April. Le sujet du cloud est essentiel. Encore faut-il définir ce que c'est et quels sont ses intérêts. François Pellegrini nous rappelle que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Cessons de parler de cloud sans ordinateur, dit-il. Pour rappel, plus de 70% des clouds relèvent des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et donnons aux gens les bonnes clés pour comprendre où est cet ordinateur et où sont leurs données. Le cloud permet de mutualiser des machines, évite le gaspillage d'énergie et réduit les coûts. L'utilisateur est attiré par des fonctionnalités, par une facilité d'usage, parce qu'énormément d'argent est mis dans son ergonomie par ces grandes entreprises. Il permet le passage à l'échelle, une certaine flexibilité, une certaine sécurité, ces gros acteurs pouvant y consacrer de l'énergie, en tout cas celle qu'ils souhaitent. Le cloud rend des services, mais rend aussi servile. Le service peut coûter de plus en plus cher, voire risque d'être coupé, sans compter que sortir de certains clouds devient difficile. Les législations extraterritoriales auxquelles sont soumis ces fournisseurs américains peuvent les contraindre, sans que leurs clients en soient informés, à transmettre au département de la justice des données potentiellement stratégiques. Une arme économique redoutable. Et on parle même de guerre par le droit. Chaque entreprise doit connaître le niveau de confiance qu'elle peut accorder concernant l'utilisation de ces données afin de définir une stratégie. Mutualiser, mais jusqu'à quel niveau ? Bénéficier d'économies d'échelle, mais rester dans un périmètre qui lui garantisse la maîtrise de son patrimoine informationnel et de ses services essentiels. Nous savons que pour n'importe quel utilisateur lambda, il est aujourd'hui très difficile d'avoir des conversations personnelles, une intimité en ligne, puisque celle-ci est entrée dans ce système extérieur, souvent sans qu'il en comprenne vraiment les enjeux. Les acteurs de droit européen ont une conception du rapport à la donnée totalement différente de celle des écosystèmes chinois ou américains. En Chine, le tiers de confiance, c'est l'État qui contrôle tout, et aux États-Unis, on a une conception marchande des données. En Europe, parce qu'il y a un droit européen, que les opérateurs européens sont conformes à la loi, la protection des données est au cœur des écosystèmes, d'abord pour le marché, mais surtout pour les utilisateurs, les clients. Les intervenants reconnaissent que c'est un avantage concurrentiel au bénéfice des entreprises. En Europe, le principal outil, c'est la réglementation. François Pellegrini affirme que le RGPD, le règlement sur la protection des données, est un texte équitable qui va dans le bon sens. Tous les acteurs qui veulent interagir sur le territoire européen doivent respecter cette réglementation. Pour Tariq Krim, ce texte est arrivé à un moment où l'Internet, avec les réseaux sociaux, était totalement en train de changer, avec des conséquences dont on commence à peine à voir les effets néfastes qu'on a essayé de modérer avec pléthore de lois. La régulation européenne se positionnant beaucoup plus en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Le temps de mettre en œuvre ces lois, dit-il, le marché va encore évoluer avec ChatGPT et toutes les intelligences artificielles dites génératives, capables de fournir du contenu à partir des données qui leur ont été fournies. Lorsqu'une nouvelle technologie se met en place, Dimitri Van Zandviet pense que nous devons, en tant que société, laisser les choses se produire sur un mode expérimental et raccourcir les étapes préliminaires, quitte à établir des règles qui ne sont pas 100% valables et applicables. On entend volontiers parler du retard technologique des Européens, et, pourtant, les compétences ne manquent pas. Historiquement, notre continent a été extrêmement productif avec des ingénieurs inventifs. La contribution de l'Europe a été essentielle à ce qu'est devenu l'Internet. Bon nombre d'innovations dans le monde du numérique viennent de la France et viennent de l'Europe. Linux, le web, le MP3 pour la musique, le protocole de communication sur Internet IRC, le langage Python, et la liste n'est pas exhaustive. Ces innovations, pour des raisons politiques et économiques, n'ont pas été déployées en Europe et ont été reprises par d'autres acteurs ailleurs. Un état des lieux montre qu'actuellement, de nombreuses sociétés bâtissent des briques technologiques dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du cloud, dans le domaine du logiciel. Donc les talents sont là, les compétences et les capacités sont présentes, reste à définir des politiques qui mettront en mouvement les différents acteurs. L'identification politique de ces sujets est nécessaire. Les intervenants attendent un changement de mentalité de nos décideurs. Ceux-ci doivent se défaire de leur mentalité de coloniser, se débarrasser de leurs préjugés injustifiés, les portant à croire que les produits importés sont toujours de meilleure qualité que les produits locaux. Les plateformes sont construites ailleurs, on va bâtir dessus, mais on ne les remet pas en question. Les initiatives françaises et européennes existent, il faut les financer, de façon à intensifier la recherche, favoriser l'innovation et augmenter la qualité des produits. Une stratégie dans la durée doit être pensée, avec des moyens opérationnels, dont la commande publique, les administrations étant de grands prescripteurs, mais aussi la commande des grands groupes. Favoriser les achats de solutions technologiques auprès des petites et moyennes entreprises européennes, pour leur permettre de vivre et se développer, est une nécessité pour les intervenants. Le sujet du logiciel libre est abordé. Monsieur Isserny se montre agacé, voire frustré, de constater que ce sont souvent les solutions libres qui guident l'état de l'art, mais on préfère aller acheter le produit sur étagère. Beaucoup de décisions sont prises uniquement sur le critère d'immédiateté. On a besoin de quelque chose, on le veut tout de suite. Si on veut créer de la valeur, donc des services de qualité, il faut intégrer des composants de qualité. Il faut arrêter le culte de la simplification où on appuie sur un bouton et tout va se faire de manière magique. L'Europe possède la potentialité de fabriquer des choses complexes et cependant simples pour les utilisateurs dans le respect d'une certaine exigence de qualité. Dans le libre, on est face à des petites structures, des TPE, pas toujours en mesure de fournir à la fois le produit et les services et pas toujours facile à identifier. Et pourtant, cela permettrait de leur attribuer des financements de façon à les aider à progresser, à fournir un meilleur service à leurs clients, c'est-à-dire faire leurs preuves, notamment les plus jeunes. Le libre est un facteur de puissance économique considérable. Encore faut-il comprendre son modèle économique, le favoriser, savoir bénéficier de l'effet levier des communautés. Tout le monde est convaincu, in fine, que le coût sera moindre. Quand on investit dans des briques libres, on protège le patrimoine informationnel, on investit dans la durée. Faire émerger des alternatives libres nécessite de la volonté. Tariq Krim rappelle que la majorité du code des logiciels libres, bien souvent inventé en Europe, dépend désormais de fondations de droit américain, ce qui devient un avantage commercial. Il souhaiterait qu'un travail soit engagé pour une relocalisation de ces fondations en Europe. La réindustrialisation est un objectif que tout le monde a compris. Avoir perdu l'acte de fabrication, c'est avoir perdu une source de connaissances importante. Réindustrialiser permettra à ce savoir de revenir. Cela se fera en tenant compte de nouvelles contraintes dont l'écologie, la question des déchets. Un vrai défi pour les jeunes ingénieurs qui devront construire tout un ensemble de choses nouvelles, de nouvelles chaînes de valeur. Un sujet de préoccupation, et non des moindres, concerne aussi la géopolitique avec la protection des infrastructures, et en particulier les câbles sous-marins transatlantiques qui permettent l'accès aux services. Il est rappelé que l'Internet ouvert s'est construit et ne peut fonctionner qu'avec la coopération de l'ensemble des acteurs, en confiance. C'est un joyau à préserver au-delà du business, au-delà des cultures et de la politique. Le constat est unanime. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'ingénieurs en Europe. Le recrutement est un problème. Nos scientifiques et nos ingénieurs essaiment dans les meilleures entreprises du monde, où qu'elles soient. Il faut inviter les jeunes, particulièrement les filles, à aller vers les sciences dès avant le lycée. On a besoin de tous les talents. Un profond changement d'état d'esprit global de notre société est indispensable. Il faut sortir de l'image du geek à capuche. Il faut ensuite retenir ces talents, investir dans les universités pour faire en sorte qu'il y ait plus d'informaticiens, avec plus de mixité, des doctorants qui auront intérêt à rester sur le territoire européen, sachant que la question de leur rémunération reste cruciale. Il faut aussi mettre en œuvre des solutions pour retenir les entreprises, qu'elles ne soient pas rachetées plus tard par des entités tierces. Ne soyons pas défaitistes, l'Europe n'a aucun retard. Elle possède les atouts pour construire de la valeur commerciale, de la valeur technologique et de la valeur stratégique. Des personnes et des entreprises compétentes sont à l'œuvre. Nos décideurs doivent en tenir compte et favoriser l'apport qu'elles peuvent offrir au bien commun, aux intérêts de la France en tant que pays ou de l'Europe en tant qu'union politique.
C'était la chronique Les retranscriptions qui redonnent le goût de la lecture sur le sujet Faire évoluer les mentalités des décideurs en France et en Europe. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Si vous étiez déjà avec nous en début d'émission, vous avez entendu l'appel de Di pour à défendre le chiffrement dans sa nouvelle chronique. Comme il le disait, après avoir révélé des informations particulièrement inquiétantes sur l'affaire dite du 8 décembre, la Quadrature du Net a publié une tribune ce 15 juin pour dénoncer la criminalisation du chiffrement des communications. Et au-delà de ça, une alerte sur une pratique politique et judiciaire qui, au nom de l'antiterrorisme, quand ce n'est pas au nom de la pédocriminalité, revient in fine à remettre en cause l'exercice même des libertés informatiques dans leur ensemble. Face à ces importantes menaces contre les libertés informatiques, l'April, comme 130 autres personnes physiques et organisations, ont signé cette tribune pour faire front. Jeudi 29 juin, nous vous invitons à découvrir les coulisses du Chapril. La contribution de l'April au collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Présentation en vidéo conférence via Big Blue Button de 21h à 22h30. Pierre-Louis Bonicoli, animateur du groupe, vous présentera le fonctionnement du Chapril et répondra aux questions. D'autres personnes qui participent au Chapril devraient être présentes. C'est bien sûr ouvert à toute personne, pas forcément membre, sans avoir besoin d'être membre de l'April. Vendredi 30 juin, nous vous proposons de participer à notre réunion pour échanger sur le bilan de la saison 6 et préparer la saison 7. Et oui, la saison 6 arrive bientôt à sa fin, notre dernière émission est le 4 juillet de mémoire. Cette réunion aura lieu vendredi 30 juin 2023 de 10h30 à midi maximum et sera ouverte à toute personne qui le souhaite. Elle aura lieu elle aussi à distance en utilisant le logiciel libre Big Blue Button. Et si vous voulez nous voir en vrai, c'est bien aussi, l'April propose un apéro ce même 30 juin, vendredi 30 juin à partir de 19h dans nos locaux situés dans le 14e arrondissement de Paris. Événement ouvert à toute personne. Je précise toutefois que le local se trouve en demi-sous-sol et on y accède par un escalier de 4 marches et que les toilettes ne sont malheureusement pas accessibles en fauteuil roulant. Après on verra en fonction de la météo si peut-être on essaie d'organiser ça en mode pique-nique, mais tenez-vous informés sur le site de l'April ou sur l'agendadulibre.org, agendadulibre.org que je vous invite à consulter pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous ainsi que des organisations locales qui font vivre le logiciel libre sur leur territoire. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. G, Laurent Costi, Stanislas Zolcini, Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Thierry Olville, accompagné de Mélène Desnaux et Magali Garnero. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel-Giraudin, Languin, Julien Haussmann. Merci également à Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet. Excusez-moi. Merci également à Quentin Gibaud qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu mardi 27 juin en direct à 15h30. Notre sujet principal portera sur les solutions libres d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Rendez-vous donc mardi 27 juin et d'ici là, portez-vous bien.